Cinéscopie, collection de portraits sonores des membres de l'équipe des cinéastes avec Evan de Radio Alpa à la technique. Des voix, des regards, de la passion pour découvrir hors champ, sous un angle très cinématographique, celles et ceux qui programment, accueillent et transmettent le cinéma d'auteur. Aujourd'hui, Marion.
Donc, je suis Marion Salle, je m'occupe de la communication sur les cinéastes et aussi sur la MJC, notamment la communication digitale. Et je fais aussi de la médiation cinéma auprès des jeunes qui ont entre 15 et 25 ans.
Marion, on se souvient tous de son premier film, de son premier souvenir de cinéma. C'est quoi le tien, ton premier souvenir de cinéma ?
Alors moi, j'ai plusieurs souvenirs. J'habitais dans un village en pleine cambrousse, donc il n'y avait pas de cinéma là où j'étais. Par contre, ce qu'il y avait, c'était du cinéma itinérant. Donc dans la petite salle des fêtes de mon village, on avait, dans mon souvenir, c'est une fois par trimestre, on avait un projecteur, on recevait les copies et du coup, tout le village se réunissait autour de ce film. Donc souvent, c'était des films assez grand public. Et c'était super parce qu'on voyait le projecteur, il n'y avait pas de cabine de projection, on voyait le projecteur pellicule. Donc c'était super parce qu'avant de voir la séance, on voyait vraiment la pellicule de comment ça fonctionnait techniquement. Et après, on s'installait dans la salle. Et je me rappelle, et ça je faisais même dans les vrais cinémas entre guillemets, de toujours me retourner et de voir la lumière. Et je me disais, comment ça fonctionne ce truc Donc c'était bien de voir la machine en fait aussi.
Oui, donc c'est pas qu'un souvenir visuel, c'est aussi un souvenir, on va dire, émotionnel,
ouais.
D'avoir vu comment ça se faisait, la projection, et puis aussi le partage avec le village.
Ouais, c'est ça. Vraiment expérience collective.
Et alors le premier film que tu as vu, c'était quoi ?
Alors,
tu t'en souviens ?
Pour moi, mon premier, c'était Le Livre de la Jungle 2, donc en 2003, et Monstres et compagnie. Mais je me rappelle surtout de... avant la séance, à quel point j'étais pressée d'aller au cinéma. On y allait avec mon cousin et ma cousine, mais à tel point que mes cousins m'ont dit « Mais en fait, si tu es trop pressée de voir le film, tu risques d'être déçue. » Et voilà. Et du coup, fallait que je me restreigne de mon impatience. Quoi.
De montrer ton excitation, ouais, à l'idée de voir du cinéma. Et t'avais quel âge, Marion ?
Alors moi, j'ai noté Monstres et compagnie 2002. Moi, je suis de 96, donc ouais, je devais avoir 6 ans, 6-7 ans.
D'accord. Alors, est-ce que ton premier souvenir est ton meilleur souvenir de cinéma ?
Alors, Monstres et compagnie, moi, je me rappelle surtout du générique avec les... Bon, après, je l'ai revu de nombreuses fois depuis.
Tu l'as revu de nombreuses fois ?
Ah ouais, ouais, moi, Monstres et compagnie, c'est... Mais parce que je pense que ça m'a fait aussi une sacrée... Ouais, c'est une sacrée expérience. Mais je me rappelle surtout du générique du début où la salle se met dans le noir et il y a, je sais pas si tu vois, c'est une musique jazz avec les portes qui s'affichent et tout. Je me dis, oh, c'est génial. Enfin, je trouvais tout génial, quoi.
Donc là, c'était assorti à la musique, du coup.
Ouais, 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 pas mal.
Et ton pire souvenir de cinéma, Marion ?
Bah, j'en ai pas tant. Alors, moi, je me suis noté Gravity parce que les mouvements de caméra, bon, c'était un peu intense. Mais en fait, quand j'en ai parlé un peu autour de moi de c'est quoi votre pire souvenir de cinéma, souvent on parle des autres, de quel point ils peuvent être embêtants et tout. Mais ce qui est vrai, hein, c'est vrai que les bruits de mâchouillage de pop-corn, ça peut être un peu irrité. Mais bah, en fait, c'est ça aussi, quand on va au cinéma, c'est le collectif. Donc moi-même, j'aime bien entendre les gens discuter entre eux. Je trouve ça amusant, quoi.
Mais le pop-corn, non.
Bon... Oui, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable à entendre. Moi, je suis pas misophone, donc là-dessus, ça me dérange pas plus que ça. Puis en fait, très vite, le pop-corn, on en vient à bout. Et donc, en fait, passer les 10 premières minutes du film, généralement, on n'entend plus le pop-corn.
Donc, t'as pas de film pire souvenir, du coup ?
Non, non, bah, Gravity, effectivement, c'était assez désagréable parce que ça bouge tellement. Enfin, elle est propulsée dans l'espace. Donc, il y a un moment où tu dis, oh, ça file un peu la gerbe, finalement. Mais j'ai quand même aimé le film. Donc, non, j'ai pas de films comme ça qui m'ont hérissé le poil.
Alors, bon, tu as cité Monstres et compagnie comme étant comme un peu un film doudou pour toi.
Ouais.
En dehors de Monstres et compagnie, quel film as-tu regardé plusieurs fois, Marion, et que tu pourrais revoir encore ?
Bah là, cette année, j'ai été un peu intense sur le film Arco. Je suis allée le voir 5 fois de suite.
Ah, 5 fois ? Mais en combien de temps ?
En l'espace de 2-3 semaines, hein, quand même.
Ah oui, quand même. Ouais. Oui, ça fait beaucoup.
Ouais, ouais, beaucoup. Mais en fait, bah, moi, je l'ai vu en festival et j'avais juste vu l'affiche. Donc c'est un gamin avec une cape arc-en-ciel. Alors c'est un film d'animation. Je me suis dit l'affiche, elle est kitsch. Et j'allais le voir un peu, de toute façon c'est en festival, donc tu te dis j'y vais et puis voilà, on verra bien. Et je savais pas du tout de quoi ça allait parler. Et là, mais une claque, j'en suis ressortie. Quand je suis retournée dans l'appart, j'étais mais qu'est-ce que je viens de voir, c'est extraordinaire. J'en ai parlé à plein de gens. Quand il est sorti en salle, là, je suis retournée le voir. J'ai emmené plein de monde le voir. Enfin, vraiment, ça m'a fait une de ces claques.
Tu peux nous dire de quoi ça parle, Arco ?
Oui, alors c'est un film de science-fiction où c'est l'histoire d'Arco qui vit dans un futur très lointain et assez idyllique où on comprend pas exactement. Il est dans une espèce de maison bulle sur une plateforme et il vit dans une ferme. Tout a l'air vraiment super. Et c'est un futur tellement lointain qu'ils ont réussi à maîtriser le voyage dans le temps. Et lui, il n'a pas l'âge encore de voyager dans le temps. Et un jour, il va voler la cape qui permet ce voyage-là. Et il la vole à sa sœur et retourne dans le passé. Donc lui, il voulait aller voir les dinosaures. Donc un passé très très lointain. Et en fait, il se trompe d'époque. Il arrive en 2075. Donc son passé à lui, mais notre futur à nous, qui est en fait assez proche, hein, c'est dans 25 ans finalement.
Oui, c'est très proche, de 2075.
Et, voilà, et en fait, comme on peut s'imaginer, le réchauffement climatique la crise climatique a complètement été emballée, donc en fait, on arrive sur une méga tempête, et en fait, les gens, c'est leur vie, quoi, et ils ont appris à vivre avec, et même ils ont créé beaucoup de technologies autour de ça, donc les maisons sont protégées par des espèces de bulles. Et c'est pas un problème, quoi. Et il va rencontrer Iris qui va l'aider à retourner à son époque.
D'accord. Bah, tu nous donnes vraiment envie de revoir Arco.
Ah ouais, ouais, ouais.
De voir ou de revoir Arco,
Marion. Je le conseille à tout le monde.
Tu le conseilles à tout le monde. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a une scène de cinéma qui est gravée à jamais dans ta mémoire, Marion ?
Alors là, c'est pareil. C'est un peu compliqué de trouver une scène. Par contre, moi, c'est des types de scènes.
Types de scènes.
Ouais, moi, c'est vraiment le plan séquence. Ça me fascine vraiment quand j'en vois. Même ça me sort du film tellement j'aime ça parce que je trouve que techniquement, c'est une prouesse, quoi.
Oui, c'est une vraie prouesse technique, de toute façon.
Surtout quand il y a des mouvements
même
de caméra.
Même aujourd'hui encore.
Mais oui, bien sûr. Et surtout quand c'est sur une durée de film. Alors moi, je me rappelle de Utoya. Alors, je ne me rappelle que de Utoya, j'ai noté. Utoya, 22 juillet. Où là, c'est le film complètement, et le film est en plan séquence complète, donc ça ne coupe jamais. Et donc ça se passe sur l'île d'Utøya en Norvège, et c'est au moment des attentats.
Oui.
Voilà. Et on suit une jeune fille, et au début, tout se passe bien, et puis jusqu'à ce qu'il y ait la tuerie, quoi. Et donc la caméra suit en permanence cette jeune fille.
C'est très immersif, le plan séquence.
C'est très immersif.
Oui.
Et c'est hyper impressionnant parce qu'elle se déplace beaucoup. Forcément, elle essaye de survivre à ces fusillades. Et évidemment, le film est très émotionnel parce qu'on a l'impression d'y être. Et moi, ça me sortait du film parce que je me disais, mais la chorégraphie de tous les personnages, il faut qu'à tel moment, machin parle avec truc. Et ça, c'est vraiment, moi, c'est ce que je préfère regarder, quoi, les conséquences.
C'est une vraie prouesse technique.
Ouais.
C'est vrai que le fait d'accompagner le mouvement, parce que le plan séquence, c'est toujours basé sur un mouvement, souvent mouvement de foule, justement.
Ouais.
Et c'est quelque chose qui nous touche toujours beaucoup, Marion.
Toujours.
D'accord. Alors, un petit peu dans le même ordre d'idée, ta BO préférée, nous en as un petit peu parlé, finalement, avec Monstres et compagnie.
Ouais.
Alors
ouais.
Que la BO...
moi, c'est quelque chose que j'oublie assez facilement.
C'est ce que tu oublies assez facilement.
Ouais, ouais. Autant les images me restent longtemps en tête, autant les musiques, il faut vraiment qu'elles me marquent. Et on parlait de Monstres et compagnie. Arco, ça a été formidable. Alors là, c'est pareil, je l'ai poncé, la BO.
Quand même.
Mais j'étais vraiment un peu extrême sur ce film. Mais moi, celle dont je voudrais parler, c'est surtout Swiss Army Man, qui est un film qui n'est pas
Swiss
très connu.
Army Man.
Ouais, comme le couteau suisse humain.
Oui.
Alors ça, c'est avec Paul Dano et Daniel Radcliffe. Donc Daniel Radcliffe qui a joué le personnage d'Harry
Potter.
Voilà, on le connaît comme ça. Et je crois qu'il a eu un
peu
de mal.
Il a grandi.
Et je crois qu'il a eu un peu de mal de sortir de son rôle de Harry Potter. Et là, on le retrouve dans le rôle d'un zombie. Un zombie pétomane. Et donc, c'est très drôle. Donc en fait, il pète beaucoup dans le film et c'est hilarant.
Oui, enfin, c'est rare, en fait, dans les films occidentaux de
voir ouais, moi, je suis très... Quelqu'un prout, ça me fait rire, quoi. Donc, désolée, hein, je ne suis pas très subtile, mais...
Non, tu n'es pas très occidentale, Marion.
Ouais, peut-être. Mais voilà. Et en fait, bon, évidemment, ça prête à rire parce que tu te dis, wow, un zombie qui pète, c'est très bizarre. Mais c'est très sensible comme film. Et en fait, la BO du film, c'est plein de musiques très connues. Bah, y a notamment Cotton Eye Joe. Très bizarre dans une bande originale. Et là, en fait, toutes les chansons sont réinterprétées par Paul Dano et Daniel Radcliffe. Ils chantent ensemble toutes les musiques du film. Et ça donne un super effet, quoi.
Donc, tu nous recommandes la BO. Tu peux nous rappeler le nom du film, Marion ?
Swiss Army Man.
Avec Daniel Radcliffe. D'accord. Et Paul Dano.
Et Paul Dano, qu'on adore.
Marion, alors, ton réalisateur, ta réalisatrice préférée ? Aujourd'hui, on va dire, parce que ça doit changer souvent.
Ça change régulièrement.
Régulièrement.
Ouais, dès qu'ils sortent un nouveau film, ça change. Là, récemment, Paul Thomas Anderson.
Paul Thomas Anderson.
Tout ce qu'il fait, c'est formidable.
D'accord.
Ah, j'ai un peu moins aimé son dernier, mais quand même.
Tu peux nous rappeler le titre de son dernier film ?
Alors, attends, donne-moi 2 minutes, parce que là.
Bon, sinon.
Une bataille après l'autre.
Oui, c'est un film très récent.
Très récent. Pedro Almodovar aussi.
Oui.
J'ai quasiment tout vu de sa filmographie.
Et ton préféré j'adore. D'Almodovar Aujourd'hui.
Ouais, c'est dur parce que là, le dernier que j'ai vu, c'était La Chambre d'à côté que j'ai beaucoup aimé.
Oui, qui n'est pas très
qui n'est pas très révélateur de sa filmographie.
C'est ça. Moi, c'est ça. On pourrait très bien penser que c'est pas Almodovar.
Ouais.
Très classique comme
La pielle qui habite au.
La pielle qui habite au.
Mais enfin, moi j'aime beaucoup la manière dont il parle des femmes. Je trouve ça surtout le rapport mère-fille. Là, je pensais à Giulietta.
Oui, Giulietta.
Ouais, que j'ai beaucoup aimé.
Qui est aussi relativement récent.
Ouais, oui, c'est vrai.
Mais c'est vrai que Almodovar est quand même le metteur en scène le plus sensible pour ce qui concerne la vie des femmes.
Ouais.
Il est impressionnant pour ça.
Mais ça, on parle beaucoup de male gaze, mais lui, pour le coup, j'ai l'impression qu'il s'intéresse vraiment à ce qu'elle pense et il montre des femmes quand même assez plurielles, donc je trouve ça très chouette. Je me suis notée quand même des réalisatrices, c'est marrant parce que quand j'ai réfléchi un peu aux réalisateurs...
Oui, parce que là, c'est des réalisateurs.
Mais en fait, c'est ça, très rapidement, je pense à des réalisateurs, mais en fait, il y a quand même beaucoup de réalisatrices aussi que j'aime beaucoup. Moi, je me suis notée Monia Chokri, qui elle joue sur tous les tableaux parce qu'elle est à la fois actrice et réalisatrice. Là, ça fait longtemps qu'elle n'a pas fait de nouveaux films, mais j'aime beaucoup ce qu'elle fait et j'aime beaucoup sa manière aussi de jouer. Agnès Varda, quelle femme, quoi.
C'est un grand modèle.
Ouais,
je dirais elle est connue dans le monde entier et ses films sont étudiés dans les universités, toutes les écoles de cinéma.
Ouais. Et puis Céline Sciamma, pareil, Cocorico, j'aime beaucoup aussi.
Une actrice ? Un acteur qui t'émeut à chaque apparition.
Bah là, je parlais de Paul Dano juste avant.
Oui.
Je l'adore, hein, franchement. En fait, moi, j'aime bien les acteurs qui... On pourrait les croiser dans la rue, on ne se doute pas qu'ils sont acteurs. Paul Dano, pour le coup, il a un visage un peu poupon. Enfin, il n'est pas du tout dans ce truc de très hollywoodien, de belle gueule, même si j'adore les belles gueules, hein, évidemment. Mais voilà. J'aime beaucoup Swan Harlow aussi.
Les belles gueules ne nous touchent pas forcément, toujours ?
Oui, c'est vrai. Mais bon, après, un beau Robert Pattinson, on ne dit pas non. Hein. Jack Gyllenhaal, pareil, j'aime beaucoup. Mais Swan Harlow, par exemple, j'aime beaucoup parce qu'il est, pareil, il est un peu androgyne. Il me touche beaucoup, quoi. Et en actrice, j'aime beaucoup Monia Chokri, j'en parlais. Et dans le même style, India Air.
India Air.
Ouais.
Qui est sartoise.
Mais oui, fierté locale.
Fierté locale, très sympa
voilà.
En plus.
Oui, elle vient régulièrement au cinéaste. Donc voilà, et moi je suis toujours un peu intimidée quand je la vois, je me dis, oh, c'est India Air. Mais oui, c'est ça, en plus elle est très sympathique. Et moi j'aime beaucoup aussi les films de Joachim Trier. Et là, Renate, alors c'est pas facile à dire, Reinsve, c'est celle qui joue là dernièrement dans Valeurs sentimentales. L'actrice principale, qui est très bien aussi dans Julien 12 chapitres. Et elle, c'est plus dans un truc de... Elle m'éblouit, quoi. Elle est filmée sous tous les angles, même quand elle pleure, qu'elle a le visage tout bouffi. Je la trouve... elle m'émeut beaucoup.
On est dans la réalité avec ces acteurs-là.
Ouais, j'aime bien.
Alors, quel personnage de film préfères-tu, Marion ? Donc, c'est les acteurs. Mm. Personnage de film préfères-tu celui, et celui que tu détestes le plus, peut-être ? Par opposition, oui. C'est plus facile.
Alors là, je triche un peu parce que c'est d'abord un livre que j'ai lu et c'est un livre qui a été adapté au cinéma qui s'appelle Le Mur Invisible, qui est un livre autrichien, mais c'est aussi un film autrichien. Donc le livre, c'est de Marlène Haushofer. Je ne suis pas sûre de le prononcer correctement.
Moi aussi, je pense.
Je fais de mon mieux, hein, vraiment. Je n'ai pas fait allemand LV2. Et le film, c'est de Julianne Roman Polsler. Alors, c'est un personnage qui n'a pas de nom. Et en fait, c'est une femme qui, pendant les vacances, se retrouve dans la montagne autrichienne. Et en fait, elle est avec ses amis. Ils partent dans le village à côté. Et bizarre, le soir, ils ne rentrent pas. Le lendemain matin, ils ne sont toujours pas revenus. Donc, elle se dit, bon, je vais aller les chercher. Et en fait, il y a un mur invisible qui la sépare du reste du monde. Et elle se retrouve seule. Et donc, au début, c'est un peu panique à bord comment je vais me nourrir ? Comment je vais faire pour ne pas perdre la boule ? Et donc, elle écrit. Et pendant tout le film, c'est une voix off. Donc, où elle dit, bon, il y a une vache. Donc, je vais essayer de faire du lait. Et puis c'est aussi de comment on se retrouve seul face à soi-même et c'est quelle représentation on donne aux autres. Parce qu'une fois qu'elle est seule, elle se dit mais en fait je vais arrêter de me maquiller. Je me maquille pour qui ? Je me maquille pour moi, ça sert à rien. Et puis comme elle travaille dans les champs pour se nourrir, elle finit par se couper les cheveux parce qu'elle dit mais en fait mes cheveux ils me gênent. Donc en fait c'est ça, c'est toute une interrogation de la féminité que je trouvais vraiment super intéressant. Et le film est pas du tout connu, je crois. Mais le roman, je crois qu'il a eu pas mal de succès. Et c'est science-fiction, mais en fait, très vite... Très introspectif, mais très vite, on part de la science-fiction parce qu'on revient dans le concret, quoi, de comment on survit seul et qu'est-ce que ça fait d'être seul. Et ouais, c'est ça, c'est le fait d'être seul, c'est aussi s'interroger sur comment on était avec les autres. Donc voilà, très intéressant.
Très fondamental comme questionnement.
Ah ouais.
Alors, le personnage du film auquel tu pourrais t'identifier, où ressembler, Marion ? Alors... Qui serais-tu au cinéma, et sur l'écran ?
Une Laure Calamy, pour moi. Hein. Je pense que
elle me fait
beaucoup rire. Elle a toujours un peu les mêmes personnages, mais moi, dans Antoinette, dans les Cévennes, elle me fait vraiment beaucoup rire parce que elle donne tout, mais bon, ça foire un peu, quoi. Et je pense que je peux être un peu comme ça, de « Oh bah, tant pis, on y va. » Même si c'est un peu foireux, faisons-le, quoi. Donc ouais, mais comme je disais, quoi, j'aime bien les acteurs qui ont des têtes de vrais êtres humains, quoi.
Oui, authentiques.
Authentiques, ouais.
En fait, c'est ça. Mm-mm. Ils sont authentiques. Antoinette dans les Cévennes, elle est vraiment authentique.
Ouais.
Alors, quel est le film qui t'a fait le plus rire ?
Alors, rire...
T'en as parlé tout à l'heure, peut-être, d'un film Le Couteau Suisse avec Daniel Radcliffe.
Mais c'est pas un film, le début est un peu
comique.
Oui,
mais tu disais que c'est un film sensible, pas forcément
c'est
comique.
C'est ça. Mais
alors un
moi,
film comique
il m'a fait rire et pleurer, celui-là.
Oui.
Alors, moi, je suis un... forcément, c'est des films qui m'ont touché enfant, mais Cusco, l'Empereur Mégalo, film de Disney, c'est hilarant de A à Z, tous les dialogues, c'est vraiment très drôle. Et je l'ai jamais vu en version originale, je l'ai toujours vu en version française et... Je ne sais pas qui sont les comédiens de doublage là-dessus, mais ils sont vraiment à crever de rire, quoi. Puis ouais, c'est ça, c'est une question de rythme aussi. Tout est bien posé. Puis après, classique, Les Visiteurs, qui est un film... Bon, il y a certains trucs un peu problématiques, hein, mais bon, c'est le problème des films quand ils vieillissent. Mais Les Visiteurs, c'est un film que je revois quand même assez régulièrement avec mes amis. Mission Cléopâtre aussi, pareil, que j'ai vu petite. Et donc forcément, je le traîne derrière longtemps, quoi.
C'est les petites Madeleines de Proust de
Marion.
Oui,
vraiment.
Et le film qui t'a fait le plus pleurer, Marion ?
Alors, moi, je me rappelle d'un film que j'ai vu où c'était même des sanglots, mais de peur, quoi.
De peur ?
Ouais, alors bon, ceci dit, non, c'est pas pour me la péter, mais j'ai un vidéoprojecteur. Et donc, des fois, ça peut vraiment faire un sacré effet.
C'est aussi très immersif, les vidéoprojecteurs.
Ouais.
Dans un petit appartement.
C'est ça. Et là, j'étais toute seule en plus, mais je sanglotais de peur. Bon, du coup, je dis le film.
Ça nous intéresse, on aimerait le partager.
Jusqu'à la garde. Je sais pas si
tu
l'as vu. Et la scène de la salle de bain.
Oui.
Mais
c'est un film qui est terrible.
Et je... en fait, j'étais tellement dans le truc, j'ai l'impression d'être avec eux. Et vraiment, mais un sanglot de peur où t'es comme ça. Parce que j'ai l'impression qu'il va venir te chercher. Là, je dis, c'est fort ça comme film.
Donc des sanglots de peur, pas des sanglots de tristesse.
Alors, sanglots de tristesse, moi j'aime beaucoup la romance. Hein. Lawrence Anyways de Xavier Dolan, très fort quoi, sur cet amour qui est à la fois un peu impossible, où on sait que c'est pas bien, mais en fait on y retourne quand même. Et je trouve ça très beau, cette idée de oui, on peut se quitter, mais on peut aussi s'aimer. Et c'est pas une fin en soi, on peut finir par se retrouver dans la vie, et ce sera plus tard. Et ouais, ça c'est.
C'est un film qui rassure, même s'il fait pleurer.
Oui, c'est peut-être aussi mon rapport à la romance qui est peut-être pas fou.
Mais on a besoin de romance dans la vie, je pense.
Ouais. Chacun. Mood for Love aussi, dans le genre où amour impossible. Puis en plus, c'est très beau, quoi. Surtout, moi, je suis assez sensible aux costumes. Bon, je me fringue très mal, mais par contre, j'aime beaucoup quand il y a un vrai soin apporté aux costumes. Et dans In the Mood for Love, toutes ces robes sont incroyables. Et
l'éclairage aussi.
Ouais. Non,
c'est magnifique.
C'est magnifique comme film.
Oui. Un film péché inavoué, Marion.
Alors, mais moi, pour moi, c'est pas.
T'es pas obligée de le dire.
Oh, bah si.
Si tu veux. Bah oui, bah, je suis pressée de savoir.
Bah, j'en ai plein. Shrek.
Shrek.
Mais pour moi, c'est même pas un péché. C'est le meilleur film de tous les temps, tout simplement. Donc,
n'ayons pas peur de le dire.
Non, un peu inavoué, Dick and Nick. Là, pareil, c'est problématique à plein de niveaux, mais ça me fait tellement rire, ce film. C'est
très décalé.
Très décalé. Et après, bah, ça va être inavoué aussi, les Twilight. Mais ça, je le dis avec grand plaisir. Pareil, très problématique à plein de niveaux, mais... je l'ai revu récemment avec des copines. On était genre, oh, c'est pas bien ce qu'on fait, c'est vraiment pas bien.
Et je pense
mais qu'est-ce que ça fait du bien.
Oui, il y a beaucoup de gens qui regardent ce film-là.
Ouais.
Ah oui.
Voilà.
Et alors, question difficile, Marion. Un film à montrer à des extraterrestres pour expliquer l'humanité.
Bah, j'ai plusieurs théories là-dessus. Soit on va sur du très chelou pour les faire fuir, genre des Cronenberg... où ils se disent « Ok, on va pas y aller, là, c'est trop bizarre ce qui se passe, c'est un peu dégueu. » Ou alors, on se dit un film tout doux, qui se disent « Oh, ça va, ils ont l'air sympas, on va les laisser tranquilles. » Mais sinon, moi, je pensais à Premier Contact, où effectivement, on sait pas ce qu'ils nous veulent, et on va essayer de rentrer en contact avec eux en croisant les doigts pour que ça soit pas une invitation à la guerre. Mais c'est pas simple comme question.
C'est pas simple comme question.
J'ai un peu de mal à suivre celui-là.
C'est vrai. La fiche du film que tu aurais en grand chez toi, Marion.
Le grand avantage à travailler dans un cinéma, c'est qu'effectivement, on a accès à beaucoup d'affiches. Donc j'en ai volé. Enfin, volé, non. Je les ai empruntées à durée indéterminée. Moi, c'est The Souvenir. Qui est sorti, j'allais balancer une date, mais j'ai peur de me tromper, peut-être en 2022. Et là, c'est en deux parties ce film. Et donc, il y a eu deux affiches de réaliser. Elles sont formidables et je les aime tellement, ces deux affiches.
Tu les as, les deux.
Encadrées, même.
Encadrées.
Ouais. Bon, c'est évidemment pas au bon format, mais je les aime beaucoup. Et je pense aussi à Laurent Durieux, qu'on avait accueilli l'année dernière. Donc lui, il fait des affiches en sérigraphie, il réinterprète des affiches de cinéma. Et il l'a notamment fait pour The Wicker Man. Très belles affiches avec une gamme colorée assez réduite à chaque fois, mais il prend des éléments du film et c'est comme si en une seule affiche, il racontait le film. Donc c'est très intéressant ce qu'il fait. J'aime beaucoup son travail.
Merci Marion. Alors pour conclure, si ta vie était un film, ce serait...
Moi j'aimerais que ça soit un film où on rigole.
Et oui.
Un film d'amitié.
Un film d'amitié.
Il y en a beaucoup, des films d'amitié. Moi je pensais à Beignet de tomates vertes, que j'aime beaucoup. Thelma et Louise aussi, mais bon, la fin est tellement tragique. Et donc, en fait, je me suis dit, un film qui serait un peu les deux, un film à la fois drôle et d'amitié, bah, Les Bronzés font du ski.
C'est vrai.
Voilà, mais bon, si on veut être un peu plus ARS, peut-être
Beignet de tomates vertes,
c'est un peu mieux.
Qui est un film superbe, qui a au moins 20 ans, je pense, hein, et qui est un film sur la sororité.
Tout à fait.
Très beau film de partage.
Voilà.
Et puis,
j'aimerais que ce soit un film comme ça.
Un film où on éprouve des sensations de toutes sortes.
Ouais. Ou alors comédie musicale.
Laquelle
Les Demoiselles de Rochefort. Ça, j'adore.
Marion, merci beaucoup. Merci à Evan, technicien de Radio Alpa, pour la réalisation de cette cinéscopie pour le webzine des cinéastes. On termine avec une chanson du film. Marion, tu peux nous dire quel film ?
Eternal Sunshine of the Spotless Mind de Michel Gondry.
Et le titre, c'est Light and Day.
Cause all my feelings are more